Alors ce soir, nous allons arriver à notre cinquième langage de l'amour. Rassemblé autour des cinq langages de l'amour que Gary Chapman, conseiller conjugal, pasteur, conférencier de renom, a établi. Cinq moyens d'exprimer notre amour au prochain. Et puis, on s'amuse aussi à faire ce parallèle. On dit, mais si c'est cinq langages de l'amour, et si on dit que Dieu est amour, est-ce que Dieu, lui, se sert également de ces cinq langages pour nous parler? Alors, on a déjà vu que oui, effectivement, Dieu se sert, il a ses paroles valorisantes, il a ce contact physique avec nous, on a ce temps passé ensemble, il y a ce cadeau bien choisi. On aura l'occasion à la fin de revenir et de préciser sur chacun de ces points. Et le cinquième langage d'amour que Gary Chapman nous invite à, sur lequel il nous invite à réfléchir et à pratiquer, ce sont les services rendus. Drôle d'expression, ça, les services rendus. Mais vous allez vous apercevoir que si, ça nous parle. Qu'est-ce qu'on appelle les services rendus? Eh bien, c'est l'aide que l'on apporte au quotidien, dans les moindres détails de la vie. C'est dans les tâches ordinaires, pour ne pas dire les tâches ménagères. Alors oui, dans les faits exceptionnels, les situations d'urgence, oui, mais également ce que l'on peut faire au quotidien pour aider, donner un coup de main. C'est assister, c'est épauler, c'est participer à faire quelque chose. Tout ça, ça fait partie du langage de l'amour. Rendre service. D'ailleurs, lorsque quelque chose doit être fait dans une maison, je crois qu'on a tous vécu ce genre d'expérience. Il y a quelque chose qui doit être fait. Nous sommes peut-être un peu occupés. Quelqu'un qui serait susceptible de pouvoir le faire ne le fait pas. Qu'est-ce qui commence à me dire dans notre tête? C'est pas possible. Il va rester là les bras croisés. Mais c'est pas. Il faut au moins faire ça. Et vous voyez tous les petits commentaires, le langage qui vient en dedans de nous. Mais il va rester là. Mais quel paresseux. Mais c'est pas possible. Mais moi je suis déjà débordé, il peut pas faire. Est-ce que je suis obligé de tout faire? Il me prend pour. Ça bolige. Et on a tous vécu ce genre de situation où il y a quelque chose à faire. Et puis certains sont là, croyant que quelqu'un d'autre va le faire à leur place. Mais on a tous eu aussi la situation inverse, où quelqu'un s'est proposé à nous donner un coup de main, où quelqu'un nous a épaulés, où quelqu'un s'est proposé, où quelqu'un a même manifesté de l'anticipation sur un travail domestique, sur une tâche ménagère. Et là, quel soulagement, n'est-ce pas? Quel plaisir! Quelle joie de voir que la personne ou les personnes qui vivent sous le même toit que nous participent, aident, assistent. Et on se sent beaucoup moins méprisé, on se sent beaucoup moins exploité, et à l'inverse, au contraire, on se sent épaulé, soutenu, même encouragé, parce qu'on sent qu'il y a là une complicité, quelque chose qui se fait. Et oui, parce que le fait de proposer de l'aide, d'assister, d'aider, ça montre que on a de l'intérêt, tout simplement. Ça montre que on n'est pas indifférent à ce qui se passe autour de nous. Ça veut dire que si on aide, ça veut dire qu'on ne va pas laisser l'autre se débrouiller tout seul. Parce qu'on comprend tous ces langages-là. Ce sont les langages du non-dit, mais ce sont les langages du cœur. C'est un peu, vous savez, comme dire à quelqu'un qui a faim, bonne soirée, hein. Et puis on le quitte, tout en sachant qu'il a faim, mais sans que nous ayons cherché, nous, à donner à manger. Mais la vie est remplie de situations où nous sommes appelés à rendre service continuellement. Et le Seigneur, Jésus, on va le voir, il a rempli sa vie à rendre service. Et Gary Chapman nous dit que ce n'est pas seulement une question d'habitude, ce n'est pas seulement une question d'éducation, c'est un des langages de l'amour. Alors pour certains, c'est plus inné que d'autres, mais on est tous confrontés quand même à la même chose, c'est que quand ce service n'est pas rendu, alors on se sent un peu comme délaissé, oublié, méprisé. négligée. De plus, quel avantage et quelle grâce pour un couple de participer ensemble à faire ses tâches ménagères, à être actifs ensemble. Ça renforce les liens, ça crée de la complicité, ça rapproche les sentiments, ça crée des atmosphères d'encouragement, de joie, de sourire. Et quand l'un est fatigué, l'autre est là pour redonner du stimulant. Ça aussi, pour les enfants, une vertu pédagogique. Eh oui. Parce que, déjà, vous avez pu vous apercevoir que quand les enfants sont petits, ils aiment rendre service, n'est-ce pas? Ils aiment donner un coup de main, ils aiment vider le sac des commissions, ils aiment prendre le balai. Oh là, attention, attention au vase. Mais ils aiment participer. Et ça les responsabilise. Que de leur confier des tâches, ça leur apprend aussi à participer. Je ne vais peut-être pas lire que ça les apprend à ne pas être paresseux, mais en tout cas, on travaille le poil qui pousse naturellement. Quelle désolation aussi, pour l'avoir vu de mes propres yeux, que de voir des gars ou des filles à 20 ans, 25 ans, être incapables de balayer comme il faut. Oui, ils brassent de l'air, oui, ça, ils brassent de l'air. Ou alors être complètement crispé devant un bac rempli de mousse et de la vaisselle sale dedans, mais vous vous rendez compte? Non, c'est aussi pédagogique que de leur apprendre à participer à ces tâches ménagères, à être utile pour que demain ça devienne des hommes et des femmes, des adultes responsables et capables. C'est ça la vocation des parents. C'est pas de les préserver de toute tâche et de tout effort. Jésus est celui qui, pendant son temps sur terre, pendant son incarnation, est celui qui n'a eu de cesse que d'avoir ce regard attentif sur les besoins des autres. Il a eu de cesse que d'être préoccupé par ces petites choses de la vie. Parce que on parle de des petites choses de la vie, on peut dire, oh là là, mais là, on est bien loin de l'Église, là. À l'Église, on doit parler de choses spirituelles, on doit parler de choses de choses qui nous dépassent, de l'amour, de la foi, de l'espérance. On ne va pas parler des choses comme ça. Jésus doit être bien loin de toutes ces considérations-là, mais non. Dans la mesure où c'est un langage d'amour, Jésus a manifesté ce langage d'amour. Il est bien loin de ce genre de religieux, spirituel, ultra trop spirituel, pour se préoccuper des choses terrestres. Non, au contraire, Jésus était sensible aux besoins. Oui, il guérissait les corps, mais pas seulement. Il était sensible parce que Jésus aimait les gens. Il était sensible non pas à sa vie, non pas seulement à ses disciples, mais il était sensible à tous les gens qui l'entourait. Alors je n'ai pas pris tous les exemples, je n'ai pris et je n'ai relevé que quelques exemples. Mais si on réfléchit un petit peu dans la chronologie de sa vie, en tant que fils de Joseph, qui n'était que son père d'adoption, en tant que fils de Joseph, il est appelé le fils du charpentier. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le fils du charpentier? Parce qu'il y a de fortes chances que Jésus participait au travail de son papa. Et ça, on peut le lire en Matthieu, chapitre 13, verset 55. Jésus, alors qu'il était le Fils de Dieu, a accepté de travailler de ses mains et d'être appelé le fils du charpentier. Il n'était même pas le boss, il était le sous-fifre de son père. Jésus, quand il voyait la foule qui le suivait, ça faisait 3 jours que la foule écoutait ses enseignements, ses prédications. Jésus s'est arrêté, il y a eu le souci de leur estomac. Il s'est mis en peine. Il s'est dit, mais cette foule doit avoir faim. Jésus considère nos besoins. Même les plus petits, il les connaît. Tiens, on le voit en Marc, chapitre 8, verset 2. Et non seulement il connaissait les besoins, mais on sait aussi qu'il a pourvu à ce besoin de cette foule. Conscient du rythme de vie de ses disciples, à gauche, à droite, voyageant, ramant, de jour, de nuit, toujours sollicité par la foule. Mais Jésus, dans cette considération de cœur, leur a dit en Marc, chapitre 6, verset 31, « Reposez-vous un peu, Mais c'est pas spirituel, faut toujours être à fond avec le Seigneur. Oui, mais ça n'empêche pas d'avoir le cœur au Seigneur, mais le Seigneur connaît nos limites. Et il va dire à ses disciples, reposez-vous un peu. Il est le Fils de Dieu, il aurait pu être d'une extrême dureté avec les autres, il aurait pu dire, mais vous ne savez pas qui je suis, alors écoutez-moi, suivez-moi, à la vie, à la mort. Mais non, Jésus a cette délicatesse, ce tendre soin. Quand quelqu'un est fatigué, Jésus va lui dire, repose-toi un peu. Devant une femme, méprisée, en plus cette femme, elle est méprisée par les disciples. Jésus aurait pu dire, oh, c'est des petits soucis entre eux là, des enfantillages, je ne vais pas m'occuper de ça. Non, au contraire, il intervient. Et il va dire aux disciples, mais pourquoi lui faites-vous de la peine à cette pauvre femme? Elle a fait quelque chose de bien. Jésus a le souci, même de nos contrariétés, vous vous rendez compte? Oh, Jésus aurait très bien pu dire, oh, c'est bon, hein, vous les disciples, vous êtes très... Non, Jésus a le souci, l'oreille attentive aux moindres contrariétés. Mais il a pris sa défense, alléluia. Et ça, on peut le lire en Marc, chapitre 14, verset 6. Je ne sais pas comment vous êtes. On a vu quand même qu'à chaque fois, Jésus, il manifestait toujours plus que ce que nous, on était capable de manifester. On est capable de rendre service. Mais je voudrais vous poser une question. Quand ça ne va pas du tout, que vous n'avez pas le moral, que vous êtes rejeté par tout le monde, insulté, que vous souffrez dans votre corps, est-ce que vous êtes toujours aussi bienveillant avec les autres? On est un peu plus irritable, hein? Eh bien, Jésus, à la croix, après s'être fait humilier, après s'être fait fouetter, après s'être fait insulter, maltraiter, gifler, après avoir été abandonné par toute cette multitude d'hommes et de femmes qu'il a bénis pendant des années. Lui, dont on se moquait, lui dont on a fait porter une croix sur lui-même, lui qui tombait et il n'avait plus de force, lui à qui on a enfoncé une couronne d'épines, lui qui, avec le dos tout déchiré par ses lanières, par ses coups de fouet, avait encore une croix rugueuse là derrière lui. Lui à qui on a enfoncé des clous dans les mains, sur ses pieds. Lui à qui on continue encore de l'insulter, de le maltraiter, de l'humilier. Il est là, agonisant, souffrant dans son être intérieur, parce que la crucifixion est une des souffrances les plus terribles, dit-on, parce qu'elle pousse l'homme à suffoquer. C'est comme si c'était un étouffement perpétuel jusqu'à ce qu'un moment il n'en tienne plus. C'est par épuisement que l'on meurt à la croix, épuisement de fatigue, épuisement de souffrance. Et dans ses derniers éléments, dans ce moment, il a la force de dire, Seigneur, pardonne-les à tous ces gens-là. Mais il aura encore cette délicatesse du détail. Il voit là en face de lui sa mère toute seule, sans son fils. Oh, elle est en train de pleurer de voir son fils mourir ainsi, et son disciple qu'il aimait. Et il aura ce détail du soin à dire à ce disciple, prends cette mère chez toi, voici ta mère, occupe-toi-en. Quel détail, dans la souffrance, dans l'agonie, dans l'humiliation, dans le rejet total. Alors qu'il pourrait très bien se dire, mais moi j'ai autre chose à faire que vous occuper, tu débrouilleras sans moi. Non, jusqu'au dernier instant, jusqu'au dernier souffle de vie, Jésus avait ce souci du besoin des autres. On disait tout à l'heure que les services rendus sont également un moyen pédagogique. Ben, Jésus s'en est même servi. Avec ses disciples, j'ai retenu deux exemples. La première situation, c'est un jour où effectivement Jésus était encore en train d'enseigner et puis la foule suivait Jésus. Et puis là, c'est pas Jésus qui a anticipé le besoin, mais c'est les disciples. Enfin, Jésus était rempli d'attention pour les gens, les disciples n'étaient pas encore vraiment. Au contraire, ils vont dire à Jésus, oh, renvoie la foule là, hein, qui se débrouille, qui rentre chez eux. Réponse de Jésus. Bah donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ils en sont bien incapables. Jésus va pourvoir parce qu'il est le seul qui soit capable de pourvoir à tous nos besoins. Mais Jésus va les apprendre à rendre service. Il y avait, dit-on, à peu près 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et Jésus a demandé à ses disciples, vous savez, ceux qui ont dit, oh, renvoie-les. Ah oui, vous vouliez les renvoyer? Eh bien, moi, je vous demande, allez les servir. Allez leur rendre service. Allez auprès d'eux et donnez du pain, donnez du poisson. Voilà une manière bien pédagogique de Jésus que d'essayer de transformer les mentalités d'égoïsme en les apprenant justement à rendre service. Il y aura une autre situation où les disciples n'étant pas non plus très prêts à discuter avec, vous savez, il y avait des gens qui étaient bizarres. Aujourd'hui, si on devait peut-être mettre une sorte d'identité, on dira, vous savez, c'était des gitans. Oh, les gitans, faut pas leur parler, ils habitent dans des caravanes, c'est des gens bizarres, ça. Mais non, c'est pas des gens bizarres, ce sont des hommes et des femmes que Dieu aime. Ah oui, mais c'est des maghrébins, c'est des arabes. En plus, peut-être que la dame, elle porte un voile. C'est des gens bizarres, faut pas trop les fréquenter, ces gens-là. Mais si, il faut les aimer. Et on pourrait mettre une liste comme ça de gens que aujourd'hui on mystifie, ils sont bizarres, faut pas trop les fréquenter, ces gens-là. Alors comme Jésus savait que les disciples, ils n'étaient pas très au clair avec des gens qui s'appelaient des Samaritains. Et la Bible précise bien qu'à l'époque, les Juifs et les Samaritains, ils ne se croisaient pas du tout. Ils faisaient exprès de contourner les territoires pour être bien sûr de ne pas rencontrer un Samaritain. De quoi ils avaient peur, je ne sais pas. Alors Jésus, il a usé de techniques là. Parce que Jésus, lui, savait que ces hommes et ces femmes avaient besoin de son message d'amour, de grâce. Ils avaient besoin de le rencontrer personnellement. Alors Jésus va utiliser un stratagème. Il a envoyé ses disciples faire les courses. Eh oui, il les a envoyés faire les courses. Vous avez le droit d'envoyer vos maris faire les courses, hein, pour vous retrouver un peu avec le Seigneur. Comme Jésus s'est retrouvé avec cette Samaritaine. Après, ils sont arrivés. Bah, tu fais quoi, discuter avec cette femme? Oh, Jésus, c'est pas normal! Oui, à part que quelques temps après, ils ont vu tout ce village venir. Et là, ils ont peut-être dû comprendre quelque chose sur la nécessité de rendre service. En tant que fils de Dieu, Jésus n'a eu de cesse de rendre service. D'ailleurs, c'est bien simple. Jésus a dit une phrase simple. Il a dit « Je ne fais rien de moi-même ». Ça, c'est en Jean chapitre 8, verset 28. Jésus dit « Je ne fais rien de moi-même ». Il sait bien sûr qu'il a une maman qui s'appelle Marie, un papa adoptif, Joseph, mais son vrai papa, c'est Dieu. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus est né. C'est pour ça qu'il est parfaitement homme, avec un corps, avec une chair, descendant de Marie, mais qu'il est également parfaitement Dieu. Parce qu'en lui-même, il a la nature de Dieu, son papa, son vrai papa. Il est là-haut. Alors il est soumis aux besoins de terrestres, mais au-dedans de lui. Il le dira clairement. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père me demande de faire. C'est-à-dire qu'il est parfaitement obéissant. Chaque chose que le Père Céleste lui demandait de faire, il faisait. Dans les moindres détails, dans les moindres services, dans les moindres paroles. Et il résumera d'ailleurs le sens de sa vie en Matthieu, chapitre 20, verset 28. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en sacrifice. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, alors qu'il pourrait. Vous rendez compte, on s'arrête deux secondes. Mais vous rendez compte, Dieu sur terre. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Dieu sur terre? Mais vous avez tout ce que vous voulez, hein? Tout! Il y en a qui est pas d'accord. Vous donnez ça à n'importe quel dictateur africain, il explose de joie. Vaut mieux l'exploser lui-même avant qu'il s'explose. Hein. Mais c'est ça, Dieu sur terre. Mais il faisait un royaume interplanétaire. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Pour servir au point de donner sa vie. Mais qui c'est ce Jésus? Mais quel amour! Mais quelle grâce! Mais nous-mêmes, on n'arrive même pas à réaliser là le bon sens de tout ça. Comment un homme si grand a accepté de se renier lui-même? À Éphésiens chapitre 2 verset 6 nous dit qu'il n'a pas regardé son identité à Dieu comme une proie arrachée, mais il a accepté de revêtir un rôle de serviteur, d'être humilié, maltraité, jusqu'au point d'en mourir. Ce Jésus-là nous a donné une leçon de vie. Et on peut se poser la question, chacun, par rapport à ce langage de l'amour et à la maison. Suis-je un serviteur ou est-ce que je cherche à me faire servir? Allons plus loin. Suis-je le serviteur de ma femme? Parce que c'est l'exemple que Jésus nous a donné. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et nous qui nous disons, Seigneur, on va être comme toi, alors, sers. Sers celui qui est le plus proche de ta vie. Est-ce que je sers mon enfant? Est-ce que je sers mon épouse? Et vous pouvez vous poser la question dans le sens inverse. Est-ce que je suis le serviteur de mes parents? Est-ce que je suis le serviteur de ceux qui sont autour de moi pour répondre à leurs besoins? Un jour, j'ai fait une expérience un peu particulière. Je vivais en collectivité. Et il y avait plusieurs bâtiments. Oh, on n'était pas... Donc ça, dans cette collectivité, on devait être une trentaine, hein, on se connaît vite à 30. Hein. Et puis il y avait plusieurs bâtiments et au milieu une cour, et donc on passait par là pour les différentes activités de la journée. Et il y avait des petits bancs, alors moi je vais même mettre sur mon petit banc, on voit les uns, les autres passer. Coucou. Et là, au milieu de la cour, un mouchoir en papier. Et je dis, tiens, qui c'est qui va le ramasser le mouchoir en papier? Le résultat n'a pas été très glorieux. Mais nous sommes appelés à avoir l'œil attentif comme Jésus l'avait, afin de savoir, c'est se dire, mais y a-t-il un service à rendre? Qu'est-ce que je peux faire? En quoi est-ce que je peux améliorer le bien-être de ceux qui sont autour de moi? Et vous verrez que cette attitude, cet intérêt, ce désir de soulager l'autre, d'apporter, c'est un acte d'amour, c'est un message d'amour. Alors, on a vu ces principes fondamentaux applicables dans notre vie. On a vu que Jésus sur terre a appliqué ce principe du service rendu. Et nous avons qu'il a vu appliquer plein d'autres. Mais aujourd'hui encore, Dieu continue de communiquer de son amour au travers des services rendus. Alors, on avait déjà vu que Dieu le Père, continue aujourd'hui encore de nous parler avec douceur, de nous parler avec amour. Il suffit de lire la Bible pour s'apercevoir que ses paroles nous font du bien. Il suffit d'entendre le message de l'Évangile pour sentir le bienfait que cela nous apporte. Il suffit tout simplement également de prier et de sentir, d'entendre le murmure doux et léger de sa voix par le Saint-Esprit pour sentir que Dieu n'est pas un Dieu fouettard, un Dieu méchant, mais au contraire un Dieu qui nous encourage, un Dieu qui nous élève, un Dieu qui est là pour nous tenir la main. Dieu nous parle et quand Dieu nous parle, c'est pour nous encourager, pour nous valoriser, pour nous encourager à aller plus loin avec lui. On a vu que Dieu manifeste son amour au travers de ce contact. Je dirais un contact spirituel. On ressent sa présence. Ah bon, j'ai rien senti. Si, on sent sa présence. Pas de manière physique, mais on le sent par cette paix profonde qu'il s'est si gracieusement distillée au fond de nous. Par cette joie pure, sincère, qui arrive à mûrir dans nos cœurs. Mais ça, c'est un effet de l'action de son esprit. Il nous fait sentir sa présence de temps en temps par un cœur qui brûle. Il y a une joie, il y a quelque chose là qui grandit dans notre cœur. C'est comme si ça poussait au-dedans de nous. Ça, c'est la présence du Seigneur. Nombre de fois aussi où les larmes nous sont venues jusqu'au visage, hein? Où on avait comme si c'était les larmes, ils remplissaient là tout l'orbite de nos yeux. Et on se dit, mais pourquoi ça? Mais ça, c'est le Seigneur qui nous fait vivre ces moments-là, n'est-ce pas? Combien de fois le Seigneur se fait sentir par ces émotions qui sont là, qui nous bouleversent, qui nous travaillent dans l'intérieur. On ne sait même plus où on en est, tellement ça chahut, tellement ça bouge. Mais ça c'est la présence du Seigneur. Il fait tellement de transformations, tellement de choses incroyables. C'est lui aussi qui nous fait découvrir un plein amour. Cet amour qui remplit notre cœur. Cet amour qui nous valorise. Cet amour qui nous redonne de l'espoir. Cet amour qui nous redonne envie de vivre, alors que le monde, lui, au contraire, nous éloignait de cette espérance. Dieu, on l'a vu, est celui qui aime passer encore du temps avec nous, par le Saint-Esprit. Dieu aime demeurer en nous, il aime tellement demeurer en nous, il aime tellement passer du temps avec nous, qu'il nous a proposé de demeurer en nous, d'habiter en nous. Mais qui veut habiter avec vous? Alors, il y en a quelques-uns qui se sont mariés. Vous avez vraiment trouvé des fous pour se mettre avec vous? Oh. Bah si. Mais si, il faut être un des fous pour venir habiter avec nous quand même. Ah bah en tout cas avec moi, soit une part de folie ou une part d'amour inconscient, mais comment supporter de vivre avec nous? Tous les jours, 24 heures sur 24. Ceux avec qui on vit pas 24 heures sur 24 avec eux, hein. Et ils savent pas tout non plus. Ils savent pas tout ce qu'il y a dans notre cœur, honnêtement. Dieu, non seulement il nous connaît parfaitement, mais il nous aime comme ça. Et lui qui est parfaitement saint, pur, non seulement il veut être là, mais il veut habiter en nous. Mais vous ne trouverez jamais sur cette terre un amour comme ça. Parce que qu'on le veuille ou non, même ceux avec qui on a passé un pacte à la mairie qui s'appelle un mariage. T'as entendu, ça n'arrive pas à trop coller, hein. Heureusement qu'il y a le pardon, hein. Mais avec le Seigneur, c'est encore plus proche, n'est-ce pas? Le Seigneur continue de nous faire des cadeaux, les cadeaux bien choisis. Déjà, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Aujourd'hui, tout le monde a pu s'émerveiller de la beauté du ciel. Mais on sait aussi, on s'était rappelé, ce que Dieu nous a donné le plus beau des cadeaux, son propre fils. Son propre fils. Les stars s'offrent des bagues avec des gros diamants. Mais lequel va donner son fils? Et oh, je vais t'offrir un grand voyage, je vais t'offrir un Bouygues, je vais t'offrir un jet privé. Mais qui va donner juste le doigt de son fils? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et comme on l'a... Dieu prouve son amour envers nous. Alors même que nous étions méprisants et méprisables, il nous a donné son fils, sans mérite. Alors même que nous le haïssions. Dieu avait quand même déjà offert son fils à la croix. Il nous a fait le plus grand des cadeaux. Et il continue aujourd'hui. Il veut encore, dans nos vies, nous apporter ses services. Dieu, écoutez bien ça, Dieu est celui qui se propose de nous rendre service, de nous aider dans nos activités, de nous assister dans notre vie terrestre, dans notre pèlerinage, dans notre petite considération de chaque jour. Mais oui, parce que déjà Jésus, quand il était sur terre, on l'a vu, une moindre contrariété, un estomac qui crie, Jésus est là, il le sait, il répond. Mais il continue de vouloir être là comme un ami. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira, je ne vous appelle plus d'ici, je vous appelle ami. Être ami de Dieu. Alors, je ne sais pas quelle définition vous avez du mot ami. Mais la notion d'ami selon Dieu, c'est un vrai ami, hein. C'est pas celui qui vous donne un coup de couteau après, hein. Ou celui qui est juste avec vous le temps que vous avez de l'argent, ou le shit, ou les bouteilles d'alcool. Là, on a des amis. Enfin, ils se disent amis, quoi. Non, non, non. Quand Jésus parle d'amis, C'est un cœur à cœur, c'est une honnêteté, honnêteté, c'est service à service. Et Dieu continue de vouloir à chaque instant, dans les moindres détails de notre vie, dans les moindres domaines de notre vie, il veut nous aider. Il n'est pas absent, il n'est pas indifférent. Ne croyez pas ça, ne vous dites pas « Oh, Dieu est trop occupé, il ne va pas s'occuper de moi », mais c'est son désir parce qu'il vous aime tout simplement. Ce n'est pas qu'il se force, mais comme il est amour, il a envie. Le psaume 32, verset 8, c'est Dieu qui parle. Je sais que les psaumes, c'est beaucoup David et d'autres qui ont écrit ce qu'ils exprimaient, ce qu'ils ressentaient vis-à-vis de Dieu. C'est comme des prières. Mais là, au psaume 32, verset 8, c'est Dieu qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Dieu dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Dieu dit, « Je te conseillerai. » J'aurai le regard sur toi. Et on le comprend, pour prendre soin de nous, pour nous orienter, pour nous guider, pour nous montrer la voie. Combien de fois est-ce qu'on aurait tellement eu besoin d'avoir une direction, d'avoir une aide, d'avoir un conseil? On a tous vécu ça aussi. Des fois où on aimerait avoir un conseil, et puis alors on pose des questions à gauche, à droite, et après on s'est dit, oh là là, j'aurais jamais dû poser ces questions-là. Parce que plus on posait les questions et plus on savait plus quoi faire. Ah bah si j'étais toi, je ferais pas ça. Ah mais si, tu devrais. Oh je sais pas, demande avis à quelqu'un d'autre. Ah bon. Mais c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. C'est que lui nous dit, je te conseillerai. Je te montrerai la voie à suivre. Et j'aurai le regard sur toi. Dieu est celui qui veut prendre soin de nous. Il veut nous aider. Il veut nous conseiller. Et permettez-moi de vous dire, si vous le saviez pas, mais que Dieu, c'est le meilleur des conseillers. Il connaît votre passé. Donc, il connaît toutes vos vies. Il connaît vos fragilités, il connaît vos faiblesses. Il connaît tout de vous. Il connaît votre présent. Et il sait aussi l'avenir. Il sait. Il sait les plans qu'il a prévus pour vous. Nous, on s'imagine le demain. Mais qui sait vraiment ce qui sera demain? Et de temps en temps, on fait des choix qui ne sont pas constructifs, parce qu'ils ne sont pas dans les projets de Dieu. Ils ne sont pas dans ce que Dieu avait prévu. Alors nous, on essaye d'aller dans un sens, mais ça ne marche pas parce qu'on n'est pas fait pour ça. C'est comme si vous preniez une tarte à pizza pour faire une quiche Lorraine ou un gâteau. Ça ne va pas, ce n'est pas fait pour. Et nous sommes chacun appelés. Dieu nous dit qu'il a des projets, un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre nous. Donc pour chacun d'entre nous, Dieu a un projet. Et ne serait-il pas tout simplement plus simple de demander à Dieu son conseil, son aide, étant donné que lui connaît notre avenir, notre passé, il connaît notre présent, donc il sait comment il faut s'en sortir pour arriver au plan que lui a prévu. Et la Bible nous dit que les plans de Dieu sont parfaits. Parfaits. Et même si, à cause du passé, on a fait des mauvais choix, même si on a fait des erreurs, même si on a fait aller des loupés, Dieu continuera encore à nous aider. Avec nos handicaps, avec nos difficultés, avec nos mauvais choix. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il ne va pas se dire, oh ben, t'as voulu te débrouiller tout seul, et ben fini pour toi, hein. Maintenant tu te débrouilles, tant pis, hein, c'est bon, j'ai prévenu, t'avais qu'à saisir l'occasion. Non, Dieu est un ami, c'est-à-dire que même si on s'est loupé, même si on s'est trompé, même si on s'est embarqué dans des histoires pas croyables, et qu'on a demandé pardon au Seigneur, je dis, ah, vas-y, c'est pas grave, on va continuer ensemble, on va continuer comme ça. Et c'est là que quelque part, les conseils ont encore plus besoin d'être pertinents. Parce que comme on s'est loupé et on s'est comme rétréci la voie de passage pour vivre paisible, tranquille, en toute sagesse et intelligence, alors on a encore plus besoin du conseil de Dieu, n'est-ce pas? Je voudrais juste terminer sur une dernière pensée. C'est au psaume 55, 23 qu'il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Remets ton sort, remets ta vie à l'Éternel et il te soutiendra parce qu'il ne laissera jamais chanceler le juste. Et le Proverbe, chapitre 16, verset 3, dit la même chose. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande tes projets. Ils réussiront. Alléluia. Il est notre conseiller. Non pas pour nous faire chuter. Il dit jamais le juste ne chancellera. Pas pour nous piéger. Dieu est un Dieu d'honnêteté, de vérité, de justice. Il vous aime. Mais remets. Et l'appel de ce soir, c'est un appel à devenir un véritable disciple. C'est-à-dire à être capable de tout donner à Jésus. Non pas par obligation religieuse, mais par abandon d'amour. Un homme qui sera toujours là avec des paroles pleines de grâce, d'encouragement, de bénédiction. Un homme qui vous fera sentir, comprenez le mot homme, hein, une personne, qui sera toujours là capable de vous faire sentir sa présence par cette paix, par cette joie. Ce Dieu qui voudra vivre en vous pour vous montrer combien vous avez de la valeur à ses yeux. Ce Dieu qui vous a déjà fait le plus beau des cadeaux en vous offrant la vie éternelle, mais qui continue aujourd'hui de vous offrir plein d'opportunités et plein de conseils pour vous aviser, pour vous conduire, pour que vos projets réussissent. Si vous apprenez dès maintenant et dès ce soir à tout confier, à tout lui confier, tout, de vos pensées, vos agissements, vos réponses, votre gestion financière, vos projets, vos amours, votre vie professionnelle, apprenez à tout confier. Et que en plus, vous lui obéissez complètement. Alors vous connaîtrez ce que Jésus lui-même a dit. Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et c'est ça, être disciple. Seigneur, je te confie tout. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur à tout niveau. Je te donne tout et je décide de t'obéir en tout. Non plus ce que je pense, non plus ce que je ressens, Seigneur. Je te donne toute ma vie, mon être physique, mon être moral, mon être spirituel, mes projets, mes conceptions, mes sentiments. Mais Seigneur aussi, je veux apprendre à lire ta parole pour t'obéir. Tu me demandes une chose, je vais le faire. Avec confiance, avec foi. Et Dieu dira, et Dieu dit, je suis avec toi tous les jours. Amen.